Winston Churchill, qui n'est ni le fils de Dieu, ni un saint, encore moins un enfant de cœur, évoquait avec des mots bien sentis notre rapport à la vérité. Je cite « Les hommes trébuchent souvent sur la vérité, mais la plupart se relèvent et passent leur chemin comme si de rien n'était. Certes, il peut nous arriver de préférer le confort illusoire d'un mensonge à l'âpreté d'une vérité sur laquelle on pourrait buter, qui dérangerait nos plans et déferait nos illusions. Or, de notre rapport à la vérité dépend notre liberté, si l'on en croit Jésus, cette fois-ci, lorsqu'il déclare « La vérité vous rendra libre ». Vous avez reconnu un verset de l'Évangile selon saint Jean. Et c'est bien de vérité et de liberté dont il est question dans les lectures de ce jour, au début de ce carême. Tout d'abord, le récit de la Genèse nous fait entendre le premier péché, si l'on peut dire. En effet, le serpent veut saper la confiance établie entre Dieu et ses créatures, l'homme et la femme. Pour ce faire, il énonce un bon gros mensonge en laissant entendre que Dieu interdit à l'homme et à la femme de manger d'aucun arbre du jardin. Mais si le mensonge est gros, il réussit. C'est une première déformation de la parole de Dieu. Le drame vient du fait que la vérité n'est pas complètement rétablie, parce que la femme veut rétablir la vérité. Mais comparons ce que Dieu dit et ce que la femme restitue. Dieu a dit « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et la femme répond au serpent « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Comme elle n'était pas encore créée au moment où Dieu a mis en garde l'homme, celui-ci aura peut-être mal transmis l'avertissement divin. Vous voyez la faute de qui elle vient, pas de la femme, mais de l'homme qui a mal transmis ce que Dieu lui a dit. Et la femme, elle, cet avertissement, eh bien, elle l'exagère. C'est ni manger, ni toucher. Et surtout, cet avertissement est transformé en menace. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, devient « sinon, sinon, vous mourrez ». Le serpent finit d'abîmer la relation de confiance entre l'homme, la femme et Dieu en sous-entendant que Dieu est lui-même un menteur. « Pas du tout, vous ne mourrez pas !» Et s'ensuit une petite remarque perfide faisant de Dieu un tyran jaloux de son pouvoir. Bref, le père du mensonge, le Satan, l'adversaire, ne cherche rien moins que de détourner l'homme et la femme de la réalité telle que Dieu l'a voulu et aimé. Et c'est bien ce qui se passe quand nous semblons devenir comme des dieux. Nous déformons la réalité. Pensons par exemple à ce qui se passe dans les domaines touchant à la vie, de sa conception jusqu'à son terme. Aujourd'hui, devenir Dieu, c'est décider d'arrêter la vie de quelqu'un. Le diable tente la même expérience avec Jésus, mais cette fois sans succès. Là encore, examinons comment le diable s'y prend. Pour les deux premières tentations, il utilise un même argument. Si tu es fils de Dieu, comme s'il mettait en doute la réalité de cette filiation divine. Tout d'abord, il veut créer un conflit interne au Christ lui-même, puisqu'il oppose l'humanité qui éprouve la faim après 40 jours et 40 nuits de jeûne, ça on peut le comprendre, à la divinité du Christ, qui pourrait ordonner que des pierres deviennent du pain. Jésus répond à Satan par un verset de l'Écriture qui résout la difficulté en resituant ce qu'il est, lui le Verbe fait chair, face au Père, face à Dieu. Dans un second temps, en une sorte de judo rhétorique, le diable cherche à mettre l'humanité du Fils en porte-à-faux vis-à-vis du Père, en utilisant l'Écriture elle-même pour mieux la dévoyer. Ah, tu utilises l'Écriture, bien tu vas voir, je vais utiliser aussi l'Écriture. Ainsi, voilà Satan qui cite le psaume 90. Quel blasphème! Mais Jésus, à nouveau, ne se laisse pas prendre au piège et refuse de défier le Père en niant la fragilité de la condition humaine, comme le laisse entendre la citation du Deutéronome. « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » La troisième tentation est encore plus franche dans le mensonge, pourrions-nous dire. Il n'est même plus question de Dieu, il n'est même plus question du Père. Le diable, feignant de prendre les deux réponses de Jésus, les deux premières réponses, comme une négation de sa divinité, dévoile alors grossièrement son intention à lui, prendre la place de Dieu et mener l'humanité à l'idolâtrie. Jésus réplique en faisant la vérité sur l'identité du diable. Il le dénonce comme le Shatan, en hébreu, l'adversaire, celui qui s'oppose à la réalité, qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à l'alliance scellée entre Dieu et les hommes. Puis, Jésus recourt encore une fois au livre du Deutéronome pour affirmer une vérité essentielle, peut-être évidente, une tautologie, mais qui mérite d'être rappelée. Seul Dieu est Dieu. Seul Dieu est Dieu. Le diable n'est pas Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Seul Dieu est Dieu. Et nous, frères et sœurs, que faisons-nous de la vérité? Cela semble une question bien éloignée de nos préoccupations de carême. Et pourtant, si la vérité n'est pas toujours facilement supportable, elle est toujours préférable à l'aliénation du mensonge. Une aliénation double, car d'une part, elle fait de nous les esclaves d'une illusion et nous met en contradiction avec le réel. Et d'autre part, elle nous coupe de la relation avec celui qui établit la juste relation avec le réel. Nous devenons des étrangers à notre condition d'enfant de Dieu, et cela, c'est terrible. Si nous trébuchons sur la vérité, ne faisons pas comme les individus évoqués par Churchill. Parce que si nous regardons bien les tentations, elles touchent au cœur même de nos besoins les plus fondamentaux. Nous avons besoin de nourriture pour vivre, une nourriture substantielle. Et l'Eucharistie en est une. Si le Seigneur Dieu s'est donné les espèces du pain et du vin, ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous avons besoin de manger pour vivre. Deuxième besoin, nous avons tous besoin de sécurité. Et là, j'entends les petits-enfants, évidemment. Ils doivent se tourner vers leur maman, vers leur papa, pour avoir cette sécurité dont ils ont besoin. Et nous aussi, nous avons tous besoin de sécurité. Nous avons tous besoin d'avoir un toit. Nous avons tous besoin d'être nourris, habillés. Et troisième besoin, nous avons tous besoin de relations. Nous avons tous besoin de pouvoir compter sur d'autres. Nous avons tous besoin de faire confiance à d'autres. Et nous le savons bien, lorsque la relation n'est plus là, nous sommes des morts en sursis. Alors, osons regarder la réalité en face, une réalité parfois dure, telle qu'elle s'expérimente. Osons regarder notre vulnérabilité, osons regarder nos limites humaines. Osons même affronter l'épreuve de notre faillibilité. Oui, osons regarder notre péché. Et c'est cela que nous avons à faire au début de ce carême, que nous avons commencé à faire mercredi dernier. En faisant cet effort de lucidité, implorons la miséricorde de Dieu. Il nous a envoyé son Fils bien-aimé, le chemin, la vérité et la vie, pour nous libérer de toute forme d'esclavage. Et là encore, durant tout le carême, le Seigneur nous donne de véritables moyens pour nous tourner vers lui, pour nous tourner vers les autres et pour nous retrouver nous-mêmes. Oui, le Seigneur veut nous libérer en nous donnant la vérité, cette vérité qui seule pourra nous rendre la joie d'être sauvés. Amen.